Midi 31, maintenant tout de suite, c'est le journal d'Antoine Mercier. Bonjour Antoine, pardon pour le retard.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Le dégel spectaculaire des relations américano-nord-coréennes, Donald Trump accepte de participer à un sommet avec son homologue nord-coréen Kim Jong-un, lequel s'engage à œuvrer à la dénucléarisation de la péninsule, analyse d'Éric Biegala. Le président américain qui par ailleurs lance la guerre de l'acier, imposant des taxes de 25% sur les importations. Les principaux partenaires économiques des États-Unis renouvellent leurs critiques, pointent aussi les risques d'une guerre commerciale aux conséquences imprévisibles. C'est un dossier suivi pour nous par Anne-Laure Chouin. Un convoi d'aide humanitaire d'urgence qui parvient à entrer ce matin dans l'enclave de la Ghouta orientale près de Damas. Les insurgés font toujours face à l'avancée des forces gouvernementales. Dossier suivi par Nadine Epstein. En France, le gouvernement lance un programme de privatisation avec le seuil de minimum de détention de plusieurs entreprises publiques qui vont être abaissées, à commencer par Aéroport de Paris et la Française des Jeux. Explication d'Annabelle Grolier. La mission entreprise et intérêt général. Il y a un rapport qui est remis au gouvernement pour redéfinir la finalité de l'entreprise en insistant sur sa dimension sociale et environnementale. Compte rendu de Catherine Pétillon, on dira aussi un mot du congrès du Front National cette fin de semaine. Dans un message adressé aux militants, Marine Le Pen fustige une campagne d'intoxication, une guerre psychologique menée par les médias. Contre elle, donc, commentaire d'Anne Fauquemberg, l'invité de la séquence interview, le psychanalyste Roland Gori, avec qui on parlera de cette fameuse phrase, en même temps utilisée souvent par le président de la République. Dans la dernière partie de la grande table, Olivia Gesbert.
Alors que les états généraux de la biotique se poursuivent jusqu'à l'été, elle appelle à repenser la question du don, et notamment du don d'organes, dans un essai, le tiers-corps, qui vient de paraître. La philosophe Sylviane Agnzinski sera notre invitée dans la deuxième partie de la grande table.
D'abord donc ce rebondissement tout à fait spectaculaire dans le conflit coréen, impensable même il y a seulement quelques semaines, après deux années de très vives tensions liées au programme nucléaire et balistique de Pyongyang, Donald Trump déclare donc accepter de participer à un sommet avec son homologue nord-coréen Kim Jong-un, tandis que ce dernier s'engage à œuvrer pour dénucléariser la péninsule coréenne. Les deux capitales ont donc entériné hier le principe de cette rencontre. Éric Biegala, bonjour.
Bonjour Antoine.
Principe accepté, bon, maintenant il reste le lieu, la date qui ne sont pas encore fixés.
Alors pour ce qui est de la date, ce devrait être d'ici la fin mai, c'est ce qui a été annoncé hier soir. C'est à vrai dire assez court, très court même pour préparer un tel sommet, sans aucun précédent. Aucun chef d'État américain en exercice n'a jamais rencontré de leader nord-coréen. D'ailleurs Rex Tillerson, le chef de la diplomatie américaine, le précisait tout à l'heure, la décision de rencontrer Kim Jong-un a été prise par Donald Trump lui-même. Maintenant, poursuivait le secrétaire d'État, il faut s'accorder sur le timing de cette première rencontre et cela prendra des semaines avant que tout soit réglé. Quant au lieu de la rencontre, là encore, c'est très flou. La plupart des négociations qui ont eu lieu par le passé avec la Corée du Nord, la dernière remonte à une dizaine d'années, se sont déroulées dans le village frontalier de Panmunjom, dans la zone démilitarisée qui sépare les deux Corées. Mais on pourrait aussi envisager une rencontre des deux chefs d'État dans un pays réputé neutre dans la dispute américano-nord-coréenne. En l'occurrence, la Chine et sa capitale, Pékin, font figure de favoris.
Voilà, donc on verra effectivement comment cela se passera concrètement. Pour quelles raisons ce déblocage aussi rapide et aussi surprenant?
Alors tout le crédit en revient aux Sud-Coréens. Ce sont eux qui, depuis les Jeux Olympiques, font la navette entre envoyés nord-coréens et officiels américains. Et ce sont eux, et eux seuls d'ailleurs, qui hier soir à Washington, au sortir du briefing qu'ils venaient de donner à Donald Trump, ont annoncé cette rencontre au sommet entre le président américain et Kim Jong-un. Ce qui a sans doute débloqué les choses côté américain, c'est essentiellement le fait que Kim Jong-un a garanti aux envoyés sud-coréens qu'il entendait bien non seulement s'asseoir à une table de négociation, mais surtout pour y négocier une dénucléarisation. C'est la première fois que le leader nord-coréen évoque des pourparlers autour de ce thème. Jusqu'à présent, la Corée du Nord allait répétant que son programme nucléaire et balistique était de l'ordre du non négociable. Ce qui a sans doute aussi aidé à cette ouverture nord-coréenne, c'est probablement le poids des sanctions économiques qui frappent le pays de plus en plus durement. En 2017, la Corée du Nord a vu ses exportations réduites de près d'un tiers, notamment avec la Chine, son principal partenaire économique. C'est un tiers de son économie qui a été tout bonnement effacé. Et puis, il y a le nouveau train de sanctions prises dernièrement, encore plus drastiques et dont les effets devraient se faire sentir dans les prochains mois. D'ores et déjà, les experts estiment que Pyongyang devrait se retrouver tout simplement à court de liquidité d'ici la fin de l'année. Pour le régime, il commençait à y avoir urgence à débloquer les choses.
Est-ce qu'on peut parler de tournant? Qu'est-ce que ce sommet peut changer pour la région et pour le monde?
Alors, c'est un peu difficile à dire pour le moment. Selon les négociateurs sud-coréens qui l'ont rencontré, Kim Jong-un s'est engagé à dénucléariser. Mais dans quelle mesure? et surtout en échange de quoi, ça reste un gros point d'interrogation. Mais on peut imaginer par exemple que le sommet des chefs d'État américains et nord-coréens puisse aboutir à la signature d'un traité de paix entre les deux pays qui techniquement sont toujours en guerre depuis les années 50. Un traité de paix qui impliquerait d'un côté le démantèlement d'au moins une partie de l'arsenal nucléaire nord-coréen, de l'autre l'évacuation d'une bonne partie des quelques 25 000 militaires américains et de leurs bombardiers qui stationnent aujourd'hui en Corée du Sud et menacent le Nord selon Pyongyang. On peut aussi imaginer que tout ça fasse pchit, comme disait un président français. Après tout, les dernières négociations de paix ou de désarmement avec la Corée du Nord en 2008 se sont écroulées le jour où Pyongyang a tout bonnement refusé le principe d'une vérification sur le terrain par des inspecteurs étrangers de la mise à l'arrêt de son programme nucléaire.
Merci beaucoup, Eric Biegala. Donald Trump, qui par ailleurs lançait presque dans le même temps sa guerre de l'acier, il a comme prévu imposé des taxes de 25% sur les importations d'acier aux États-Unis, de 10% sur celles d'aluminium. Et les principaux partenaires économiques des États-Unis protestent évidemment et redoutent une guerre commerciale. Anne Lorchouin, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors sur la mesure même, d'abord, c'est une annonce américaine qui laisse quand même apparemment des marges de négociation.
Oui, même si elles ne sont pas très claires, et c'est cette clarté que va s'attacher à obtenir l'Union européenne. C'est qu'a déclaré en tout cas la commissaire européenne au commerce, Cecilia Malmström. Elle estime que, au même titre que le Mexique et que le Canada, et en tant que partenaire ami des États-Unis, l'Europe doit donc être exemptée de cette nouvelle taxe à l'importation. Alors, on récapitule. Hier, la Maison-Blanche a bien confirmé que l'importation d'acier aux États-Unis serait taxée à 25% et les importations d'aluminium à 10%. Ces taxes ne prendront pas effet avant 15 jours. En seront exemptés les pays qui négocient en ce moment l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA, le Mexique et le Canada. Donc, par ailleurs, des négociations auront lieu avec les différents pays importateurs afin de déterminer des moyens alternatifs, sans plus de précision, ou des assouplissements de ces droits de douane. On peut donc analyser ces mesures comme une volonté d'amener autour de la table américaine tous les partenaires commerciaux des États-Unis pour rediscuter de ces tarifs. Plusieurs analystes s'accordent à reconnaître que les mesures annoncées hier sont finalement moins agressives que prévues. C'est maintenant que le vrai travail commence. Chacun va tenter de sortir son aiguille du jeu, Europe comprise. Europe qui, toujours par la voix de sa commissaire au commerce, a affirmé que la première option pour l'Union serait toujours le dialogue.
Tonalité un peu différente quand même. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, dit regretter cette décision et son homologue allemande qualifie elle de protectionnisme et même d'affront envers les partenaires étroits que sont l'Union européenne et l'Allemagne et envers le libre-échange aussi. Et l'Europe déclare quand même aussi vouloir peut-être porter l'affaire devant l'OMC.
Voilà, même si la section de la loi sur le commerce invoquée par Trump pour justifier sa décision, un article qui met en avant les risques sur la sécurité nationale pour déroger aux règles de l'OMC, cette loi donc n'est pas forcément attaquable par l'OMC. Par ailleurs, si l'OMC sanctionne, et cela risque de prendre quelques temps, ce sera l'occasion rêver, l'occasion attendue même, pourrait-on dire, par les États-Unis pour quitter cette OMC. Or, une organisation mondiale du commerce sans le numéro 1 mondial du commerce, ça devient pratiquement une coquille vide. Mais dans le même temps, si l'OMC ne décide rien sur cette guerre commerciale enclenchée, cela signifie aussi qu'elle est peu efficace. Dans les deux cas, ce sont les règles du commerce international qui en prennent un coup. Et ça tombe bien, Trump souhaite s'en affranchir. On verra donc ce qu'il sort des négociations qui vont sans doute s'enclencher entre les États-Unis et leurs partenaires sur le sujet de l'acier, car les Européens ont aussi des moyens de pression.
Anne Lorchouin, merci. Les organisations humanitaires s'alarment à nouveau ce matin sur la situation dans la province syrienne à l'est de Damas, soumise depuis près de 3 semaines maintenant à un déluge de feu de la part du régime. Il y a eu près de 900 morts depuis le début de l'offensive. Le point de la situation humanitaire ce matin avec Joël Bassoul de l'ONG CARE, qui a été jointe au Liban par Nadine Epstein.
Le CICR a annoncé que le reste du convoi qui était supposé rentrer entièrement lundi dans la route orientale a été livré ce matin. Ce n'est pas un nouveau convoi. Il y avait 46 camions qui étaient supposés livrer toute l'aide qu'ils transportaient lundi. Ils ont dû se retirer avant la fin de l'opération parce qu'il y avait des raids aériens. Et donc ces camions qui attendaient de pouvoir finir la livraison sont arrivés aujourd'hui dans la route orientale. Déjà, il y a 400 000 personnes qui vivent sur place. Le convoi qui était supposé arriver lundi transportait de l'aide pour 27 000 personnes. Déjà, ce n'est pas énorme. Et cette aide, avant même qu'elle s'ébranle de Damas, les autorités syriennes avaient enlevé 70% de l'aide médicale sur le convoi. Donc du coup, c'était un convoi réduit en termes d'aide médicale. La nourriture n'a pas pu être complètement distribuée parce que le convoi a dû se retirer. Et ce matin, c'est le reste de l'aide qui a été livrée. Donc du coup, 27 000 personnes sont supposées en profiter. On a entendu dire qu'il y avait du riz, des lentilles et d'autres produits alimentaires dans ce convoi. 27 000 personnes, c'est pas la totalité de la population. Il y a beaucoup de gens qui sont encore dans le besoin. Il y a surtout en ce moment du persil qui pousse localement, un peu d'épinards, et ils se contentent de faire bouillir ça, quoi, parfois pour avoir un repas.
Parce que la nuit a été calme, il n'y a pas eu de bombardement.
Ah non, les bombardements continuent. On parle même d'une centaine de tués durant les dernières 48 heures. Ce matin, je parlais encore à un humanitaire sur place qui me disait que les raids n'avaient pas arrêté. D'après les médias, le régime a repris une grosse partie des terres agricoles autour de la route orientale. Mais les centres urbains restent habités et les gens sont toujours là et soumis à des raids aériens.
Et les gens vivent toujours alors terrés dans les sous-sols ?
Oui, alors les gens sont dans les abris souterrains pour échapper aux bombardements et aussi parce qu'ils ont perdu leur maison. Les gens n'ont d'autre choix que de rester dans les abris souterrains.
Joël Bassoul donc avec Nadine Epstein. L'actualité en France, d'abord économique, puisque le gouvernement devrait enclencher un programme de privatisation modifiant pour ce faire les seuils minimums de détention de plusieurs entreprises publiques, à commencer par Aéroports de Paris et la Française des Jeux. Nous demanderons prochainement des autorisations législatives nécessaires pour faire un certain nombre de cessions d'actifs, confirmait hier le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire. Bonjour Annabelle Grelier.
Bonjour Antoine.
Alors, politique de privatisation apparemment lancée, il y a plusieurs entreprises concernées. Le gouvernement semble pas forcément désireux d'abattre toutes ses cartes tout de suite, si bien qu'il est difficile d'avoir une vision globale de cette initiative.
Oui, alors l'objectif annoncé par l'exécutif est de trouver de l'argent pour abonder un fonds en faveur de l'innovation. 10 milliards d'euros de cessions d'ici 2020. Mais il faut passer par une loi pour modifier le seuil minimum détenu par l'État dans l'entreprise. Le gouvernement compte le faire donc dans le cadre de la loi Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, la loi Pacte, qui sera présentée le 18 avril en Conseil des ministres. Actuellement, 4 entreprises à capitaux publics sont concernées. ADP, EDF, Engie et la FDJ. Une cession de participation dans EDF, a priori, serait exclue. L'entreprise étant considérée comme stratégique, restent donc les 3 autres, et notamment les aéroports de Paris et la Française des Jeux. Des privatisations dont on parle depuis plus de 20 ans, mais auxquelles les gouvernements successifs renoncent, car cela soulève de multiples questions. ADP, secteur sensible, dossier complexe, le groupe aéroportuaire en charge de la gestion de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Orly est en effet propriétaire de ces terrains, considérés comme stratégiques. Aucune décision de vente n'est formellement prise à ce stade, indique le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. Mais selon BFM Business, par exemple, le gouvernement souhaite vendre l'intégralité de sa participation au sein du groupe. Il possède 50,6% du capital, mais il garderait la propriété du foncier, comme c'était le cas des autoroutes lors de leur privatisation. Pour la Française des Jeux, la privatisation, là, s'annonce aussi compliquée sur le plan politique. L'entreprise bénéficiant d'un monopole de droits sur les jeux de loterie et jeux à gratter. Alors pour le moment, sans connaître la stratégie que va employer le gouvernement, les réactions évidemment sont virulentes dans l'opposition. On brade le patrimoine commun, on vend les bijoux de famille, dit-on dans les rangs socialistes. Il faut dire que la Française des Jeux est une bonne machine à cash pour l'État et on ne voit pas bien l'intérêt de la céder. Pourquoi ? Pour qui ? Car de ce fonds d'innovation, on ne sait pas bien non plus à ce jour à qui il profitera, Antoine.
Merci beaucoup. Annabelle Grelier, dans le même temps, le gouvernement compte demander aux entreprises privées de tenir davantage compte de l'intérêt général, en tout cas d'être attentives aux enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. Il y a un rapport sur ce thème qui a été remis ce matin au gouvernement, coécrit par le président de Michelin et l'ancienne dirigeante de la CFDT, Nicole Notta, et qui propose donc de modifier jusqu'au code civil pour introduire la notion d'intérêt propre de l'entreprise, donc au-delà apparemment de l'intérêt simple des actionnaires, et aussi pour introduire une dimension sociale et environnementale. Catherine Pétillon, bonjour. Catherine Pétillon, est-ce que vous êtes en ligne avec nous pour parler de ce projet du gouvernement concernant ce rapport remis par rapport aux entreprises? Je crois que nous avons un problème de liaison pour l'instant, donc nous allons essayer de vous rattraper. Je crois que nous avons en ligne Catherine Pétillon. Qu'est-ce que propose donc ce rapport finalement, en résumé ?
Eh bien d'abord, d'une façon générale, de consacrer l'idée que l'entreprise et ses dirigeants ne sont pas seulement au service des actionnaires, mais contribuent à un intérêt collectif, un enjeu pour l'avenir, mais aussi une manière d'améliorer l'image parfois dépréciée des entreprises, a souligné Nicole Nota. Alors comment ? La mission formule une quinzaine de préconisations. Les premières concernent le droit. Le rapport propose de modifier les codes du commerce et le code civil et d'introduire dans ce dernier un nouvel alinéa pour officialiser le fait que les entreprises considèrent les enjeux sociaux et environnementaux de leurs activités. Actuellement, dans la loi, une société ne vise que le partage des bénéfices entre associés. La mission propose donc d'introduire des nouveaux concepts, intérêts propres, raison d'être d'une entreprise. Cette idée de modifier le code civil aurait les faveurs d'Emmanuel Macron, qui avait déjà tenté de l'introduire quand il était lui-même ministre de l'économie. Idée qui pourtant a provoqué ces dernières semaines un important lobbying du patronat qui craignait judiciarisation et en tout cas ne veulent pas de nouvelles obligations. Pourtant, si un tel changement aurait une portée symbolique, ses traductions concrètes sont en fait finalement moins évidentes. Ce qui aurait pu être plus effectif, c'est l'instauration de ce qu'on appelle les entreprises à mission, c'est-à-dire la possibilité pour une entreprise d'inscrire dans ses statuts des objectifs, une raison d'être, dit le rapport, qui puisse être opposable aux actionnaires s'ils ne sont pas d'accord. La mission se contente de clarifier ce que pourrait être ce cadre optionnel, mais ne préconise pas de nouveaux statuts juridiques. Enfin, les auteurs appellent à un renforcement de la représentation des salariés. Autant de propositions que Nicole Nota et Jean-Dominique Sénard espèrent voir repris dans la loi Pacte, mais ce ne sera qu'un petit aspect, qu'un volet de ce texte, vous l'évoquiez tout à l'heure, texte présenté par Bruno Le Maire mi-avril et qui est destiné à améliorer la compétitivité des entreprises.
Catherine Pétillon à Bercy avec Stéphane Beaufis, merci à vous deux. On salue l'invité du journal Roland Gori, bonjour.
Bonjour.
Psychanalyste, merci d'avoir accepté cette invitation. Vous avez écrit récemment un long article pour Le Média intitulé « De quoi l'expression en même temps est-elle le symptôme ?» Et tous les jours, effectivement, on voit que cette expression n'est pas seulement, disons, une expression creuse, mais qu'elle correspond véritablement à une vision. Et sur l'actualité du jour, une nouvelle fois, on voit comment à la fois les entreprises publics doivent en même temps être privés, en même temps les entreprises privées doivent en même temps être publiques. Comment comprendre cela? Vous qui êtes psychanalyste, peut-être vous allez pouvoir nous éclairer.
Oui, alors c'est en tant que citoyen que je vais essayer d'éclairer un petit peu cette question. Si vous voulez, je crois que c'est la marque de fabrique politique d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il est à la fois, je dirais, énarque et en même temps passé par la finance, et il construit un espace politique et un espace national, voire étatique, à son image. De la même manière, d'ailleurs, qu'il s'est entouré d'un Premier ministre qui lui ressemble, avec un cabinet, des cabinets présidentiels et ministériels essentiellement constitués de technocrates, chargés de mettre en musique un programme qui est un programme, effectivement, de juxtaposition d'un discours et d'une rhétorique humaniste insistant sur la justice, et puis de mesures néolibérales qui sont assez féroces, on l'a vu au niveau du droit du travail. Ceci pour dire que, si vous voulez, au-delà de la question de la cession de part de l'État vers le privé, et en même temps de l'introduction au cœur de l'entreprise, au moins dans, je dirais, ses énoncés, dans ses déclarations, d'un souci d'intérêt général et d'un souci de prise en charge davantage morale, davantage sociale. En même temps, on a, en somme, une espèce à la fois d'osmose et de porosité entre le public et le privé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une hybridation culturelle, privée, publique, qui dépasse, et de beaucoup, la question, effectivement, de cession de part ou la question d'introduire un élément social et d'intérêt général au cœur de l'entreprise et donc de réduire un petit peu la prétention des actionnaires. Mais moi, je pense qu'il y a que le en même temps n'est pas un en même temps de la complexité, un en même temps, si vous voulez, de la synthèse, c'est davantage un en même temps de la juxtaposition d'un discours humaniste formidable, très habile et de pratiques néolibérales très féroces.
Alors, qu'est-ce qui va prendre le dessus, si je puis dire. Peut-être on va y revenir, Roland Gori, parce que je voudrais qu'on aborde juste le dernier sujet du journal pour revenir plus généralement, précisément sur la vie politique française et peut-être aussi sur la vie internationale. Bonjour Anne Fauquemberg.
Bonjour.
Il y a donc un congrès du Front National cette fin de semaine, demain après-demain. Message adressé aux adhérents et aux militants, publié sur Internet par Marine Le Pen, qui fustige une campagne d'intoxication, une guerre psychologique qui serait menée par les médias, selon elle, qui tentent de faire croire à une prétendue démotivation de ma part, dit-elle, ce qui relève d'une méconnaissance totale de mon tempérament et de mon sens du devoir. Comment se présente donc pour elle et pour le parti en général ce congrès?
Eh bien, en interne, au Front National, on se persuade que ce sera vraiment le congrès de la refondation, la relance d'un parti désarçonné par l'incapacité de sa dirigeante à faire front lors du débat de l'entre-deux-tours. Ça va être une renaissance, une aventure extra, me disait hier un cadre proche de Marine Le Pen, dans une formule, il faut bien le dire, un petit peu décalée avec la réalité, car le FN est en plein doute, fuite de militants, même si le parti s'en défend, manque de cadres formés. Le défi est immense pour Marine Le Pen, qui va devoir remotiver sa base militante. Les adhérents ont été consultés via un questionnaire sur l'Europe, les questions de société ou encore la citoyenneté. Les résultats seront rendus publics demain après-midi. Ce qui en ressortira devrait guider le FN pour les mois à venir, car depuis le départ de Florian Philippot, on a du mal à voir sur quel pied danse Marine Le Pen. Marine Le Pen qui n'a par ailleurs de cesse de répéter son nouveau triptyque, s'implanter, s'allier, gouverner. Le changement de nom devrait l'appuyer dans cet objectif, mais sa crédibilité est difficile à affirmer, car il y a aussi les affaires, une mise en examen au début du mois pour diffusion d'images violentes sur Twitter, un contrôle fiscal révélé par le journal du dimanche, même si le vice-président du FN, Nicolas Bay, affirme que sa présidente n'a pas eu l'information. Et puis, il y a cette deuxième mise en examen au niveau européen, la possible mise en place d'un détournement de l'argent versé par l'Union européenne aux assistants parlementaires du FN, affaire à rebondissement. Le préjudice a été réévalué à près de 7 millions d'euros au lieu de 5 auparavant, de quoi effectivement mettre à vif les nerfs de la présidente du Front National.
Merci Anne Fauquemberg. Retour vers vous, Roland Gori. Je voudrais qu'on reprenne là où on s'est arrêté sur cette notion d'hybridation. Puis vous avez parlé de, en exemple, de l'hybridation privée-publique. Peut-être qu'on pourrait s'arrêter là-dessus pour bien comprendre comment cela fonctionne, parce que cette hybridation privée-publique, chacun peut en avoir une perception personnelle.
Je crois que c'est la, si vous voulez, l'opérationnalisation, je dirais, d'une position quasiment théologique d'Emmanuel Macron, de la religion du marché, d'une culture entrepreneuriale. Vous vous souvenez quand il avait dit qu'il y a des gens qui font quelque chose et ceux qui ne sont rien. Ce qui, à mon avis, révélait vraiment ce qu'il pense de la dimension de l'être qui ne peut apparaître qu'à condition de produire et d'être sur une scène, d'entreprise. Donc, par conséquent, cette hybridation, elle n'est pas simplement une question de patrimoine, elle n'est pas simplement une question financière. Elle est véritablement...
Pour être, il faut être en marche, finalement. C'est une... Peut-être que c'est héraclitéen, c'est le mouvement qui crée l'être.
Oui, enfin, le mouvement... Enfin, tout dépend du mouvement. Je veux dire que ce qui manque essentiellement, c'est quand même véritablement l'ancrage du politique dans les humanités, l'ancrage du politique dans le souci de la vulnérabilité. C'est uniquement dans l'accomplissement d'un acte productif qu'il y a, reconnaissance sociale. Et là, il y a un problème majeur, à mon avis. Pour moi, je peux me tromper, mais pour moi, Macron représente l'ultime tentative de régler un problème de crise structurelle des démocraties libérales coincées entre liberté et égalité, c'est-à-dire faisant l'impasse sur la fraternité, qui a porté, comme vous le savez, par la Deuxième et Troisième République, et dont ce souci... quand même, notamment dans la deuxième moitié du XXe siècle, l'État, c'est-à-dire protéger les plus faibles, essayer de traiter cette question de vulnérabilité sociale et que le néolibéralisme a déconstruit. Et je crois que Macron arrive là-dessus de la même manière que la plupart des partis politiques se sont trouvés confrontés à cette crise structurelle. La gauche, par exemple, s'est avérée incapable, il faut bien le dire, incapable de relever ce défi, si vous voulez, de pouvoir justement apporter des protections sociales aux plus vulnérables.
Est-ce que vous croyez aux notions d'ancien et de nouveau monde, Roland Gori?
Alors, c'est en même temps. En même temps, il est incontestable que Emmanuel Macron apporte une nouvelle manière de faire de la politique, mais en même temps, il propose de vieilles recettes qui ont été celles des sociolibéraux, des gouvernements européens, et bien sûr déjà mis en place aux États-Unis. Donc, en même temps, c'est nouveau dans sa manière de faire, et il est capable de corporifier d'une certaine manière la juxtaposition des contraires entre libéralisme et humanisme, mais en même temps, il le fait avec les vieilles recettes de la privatisation, de la libéralisation de l'économie.
Voilà, on peut demander peut-être à Sylviane Gazinski qui vient de rentrer dans le studio. Bonjour, philosophe, on va parler avec vous notamment du don d'organes, des questions de bioéthique, mais sur précisément cette conception du président de la République sur le fait que l'on pourrait finalement allier plusieurs contraires pour faire une sorte de politique qui sortirait de la position d'engagement proprement dite, ni droite ni gauche.
Ah oui, le en même
voilà,
temps.
Et le en même temps.
Oui, moi j'ai entendu le en même temps comme une rhétorique, comme une stratégie électorale à un moment où il voulait rassembler, d'où le ni-ni et puis le et pour corriger le ni-ni. Mais de mon point de vue, le problème qui se pose est le problème du législateur, c'est-à-dire le pouvoir politique, le pouvoir du législateur. Et là, dans la mesure où le droit est quand même un des critères fondamentaux de la civilisation, hein, et donc du respect aussi des droits de l'homme. Si on se place du point de vue donc du législateur et du droit, on ne peut pas tout concilier. Et il me semble également, si j'ai pu deviner vos propos, qu'il y a des cas où il y a des contradictions quasiment insolubles entre le respect des droits humains et les intérêts économiques. Et on a vu, par exemple, dans le passé, des libéraux comme Dupont de Nemours qui disaient « Mais attention, on viole les droits sacrés de l'humanité avec l'esclavage, tant pis pour les intérêts économiques. » On attendrait des économistes et des politiques qui fassent le même raisonnement. Et je crois que le droit du travail, c'est pour ça que c'est si important l'enjeu du droit du travail. Le droit du travail, c'est ça. C'est comment la loi impose des limites à ce qu'on pourrait appeler... Moi, ce que j'appelle l'ultra-libéralisme, c'est-à-dire à l'extension du marché, un marché total où l'être humain lui-même devient une marchandise.
Voilà, et ça c'est au cœur de votre livre aussi, dont on parle dans une toute petite seconde. Roland Gorry, je m'imagine que vous êtes d'accord. On n'a plus le temps, donc
tout à fait
c'est juste pour
sauf que le droit est nécessaire, mais il ne suffit pas. C'est ce que disait d'ailleurs Solzhenitsyn, il nous faut aussi le courage de penser et d'être ensemble. Et là, le droit, il est trop froid et trop instrumental pour suffire.
Merci beaucoup, Roland Gorry, d'avoir accepté d'être venu dans ce studio gris et pluvieux sur le sud-est et sur une petite moitié nord, température quand même qui monte un peu, 10 à 17 degrés, édition réalisée avec Yacine Bouzard. Le magazine de la rédaction à 17h sur l'Inde, rendre les musulmans invisibles, le rêve des nationalistes hindous, reportage de Mathilde Vallon réalisé par Annie Brault avec Aurélie Kiffer à la présentation. 18h, ce sera Benoît Bouscarel pour le prochain journal.